Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonne émission.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Valeria Bruni-Tedeschi. Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons l'Allegro du concerto pour violon en ré mineur de Vivaldi, interprété par Théotime Langlois-Zwart. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Menton, dans les Alpes-Maritimes, pour nous faire découvrir la 90e édition de la fête du Citron. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Valeria Bruni-Tedeschi.
Bonsoir.
On pourra vous découvrir dès demain à l'affiche du très beau film de Yossi Aviram, Il n'y a pas d'ombre dans le désert. Belle occasion de vous accueillir pour revenir avec vous sur quelques moments importants de votre parcours, mieux savoir comment vous travaillez en tant que comédienne mais aussi en tant que cinéaste. Bien sûr, parler de ce film. Alors on sait que votre enfance a été comme scindée par un arrachement, puisque si vous êtes né à Turin, votre famille est déménagée en France lorsque vous aviez 9 ans. Alors votre père, lui, avait hérité de l'entreprise créée par son propre père, mais il était avant tout musicien, compositeur à l'œuvre variée. Votre mère, elle, est pianiste, était concertiste. On imagine donc que...
Elle l'est toujours.
Elle donne toujours des concerts.
Ouais, ouais, de temps en temps.
Bon. Discrètement.
Oui.
Mais elle le fait.
Parce qu'elle joue dans des films aussi.
Oui, ça, on va en parler.
Elle est aussi actrice.
Ah oui, je sais bien. Bon, enfin, on imagine que la musique devait être très présente dans la maison familiale. Est-ce que vous vous êtes imaginé vous-même musicienne, enfant ou adolescente ?
Non, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai commencé à jouer du piano petite et j'aimais beaucoup. Et j'étais assez douée. J'étais peut-être plus douée que pour autre chose. Mais j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi.
Regret aujourd'hui ?
Non, ce que je regrette, c'est de ne pas trouver le temps dans ma vie de le pratiquer. Parce que le piano, soit on joue tous les jours, soit on... Voilà, ça je regrette, je ne sais pas pourquoi, je me dis toujours quand je serai vieille. Mais je suis vieille.
Vous avez de la marge. Bon, enfin, pas musicienne, mais donc... interprète quand même, puisque tout d'abord comédienne. Est-ce que vous savez d'où vient cette envie, au fond ?
Oui, je pense que j'aime la littérature. J'ai besoin de la littérature, j'ai besoin de la parole écrite, j'ai besoin de m'oxygéner l'angoisse grâce à la parole écrite. mais j'ai commencé par étudier. Et l'étude était synonyme d'une grande solitude pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée dans des cours de théâtre pour à la fois être au contact avec la parole écrite et à la fois être au contact des autres. Parce que, voilà, j'avais l'impression que, quand même, il me manquait les rencontres. Pour moi, le théâtre et le cinéma, c'est les textes. Et c'est les rencontres humaines. Mais c'est aussi important les rencontres que les textes.
Alors, parmi les rencontres et parmi les premières, à 20 ans, vous rejoignez le cours de Blanche Salant, une Américaine.
Blanche Salant,
formée à l'Acteur Studio qui avait ouvert à Paris
formidable
un atelier d'enseignement théâtral. On va l'écouter, une courte archive, c'était sur France Culture en 2009.
Wow. Ce qui est réel dans la vie n'est pas réel sur scène.
Éventuellement,
ce qui est vrai dans la vie n'est pas la vérité scénique. Mais on utilise la vie. on utilise notre connaissance. C'est comment on l'utilise qui compte.
L'acteur a toujours une dualité. Il est toujours en train de savoir qui il est, où il est, pour ne pas tomber de la scène. Si, au minimum. Tout en créant.
Vous opiniez en écoutant Blanche Salan, Valéria Brunet-Téliski.
Au-delà de ce qu'elle dit, c'est la façon dont elle parle, la façon dont les mots me sont arrivés. Je me souviens, je reconnais vraiment l'émotion que ça me fait. La façon dont elle parle aux acteurs est une façon totalement, qui ouvre le cœur et on se sent accueilli. Et c'est la première fois, parce que j'ai pris des cours de théâtre avant, mais avec elle, j'ai compris ce que ça voulait dire, se sentir accueilli par le regard d'un metteur en scène ou d'un professeur, et donc se sentir bienvenu. Et sa voix et son ton de voix, sa façon de parler, ouvre l'instrument de l'acteur. C'est un très très grand professeur, Blanche Salan.
Alors, bien sûr, ensuite il y a l'école des Amandiers avec Patrice Chéreau, une période sur laquelle vous êtes revenu des années plus tard en réalisant votre film. Et Pierre Roman, l'irrésistible Pierre Roman. Ce film Les Amandiers, on va pas parler ici des procédures judiciaires en cours qui visent un des comédiens du film, puisque la justice travaille, on va laisser travailler. J'aurais savoir ce qui vous a poussé, Valéria Brunet-Téliski, à faire ce film. Est-ce que c'était un devoir de mémoire, un témoignage, ou est-ce qu'il s'agissait de peut-être mieux comprendre aussi de ce que vous aviez vous-même vécu à ce moment-là et qui allait déterminer quand même le reste de votre vie?
Devoir, c'est jamais un devoir de faire un film. Ça peut pas.
Désir.
Après, c'est la mémoire, c'est les souvenirs, c'est le besoin d'aller dans ses souvenirs. Ça, oui. J'ai besoin d'aller dans mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, de jeunesse. J'ai besoin... Aussi, c'était en travaillant la note d'intention avec Noémie Lvovsky, elle avait dit cette chose, elle a dit grâce au travail, grâce à la fiction, grâce à l'élaboration, grâce ensuite aux rencontres avec les acteurs qui vont jouer des personnages inspirés de nos... Là, il n'y a plus de nostalgie. C'est-à-dire que le travail, pour moi, est une antidote à la nostalgie. C'est vrai que je suis... très envahi de nostalgie. La nostalgie est quelque chose qui vraiment fait partie de moi, de moi depuis toujours. Même quand j'étais petite, je me souviens, au mois de septembre, j'avais la nostalgie du mois d'août. Donc, je peux avoir la nostalgie de hier. Mais voilà, le travail, c'est comme une piqûre, une antidote à ce sentiment qui est beau, mais qui est un petit peu mortifère. Au lieu, le travail, c'est vivifiant.
Vous parlez de littérature aussi tout à l'heure, Valéria Brunet-Téliski, ça fait partie des sources d'inspiration importantes pour vous, notamment une autrice, puisqu'à la fin des années 90, c'est je crois le comédien et cinéaste Mimmo Kallopresti qui vous avait offert Les Petites Vertus.
Oh, vous êtes vraiment, vous me connaissez en fait.
Grâce au travail de toute l'équipe d'Affaires culturelles. C'est Natalia Ginzburg. Donc, et en 2020, Geneviève Brisac lui consacrait un documentaire sur France Culture, dans lequel d'ailleurs vous témoignez vous-même. Elle lisait un extrait en ouverture, on va l'écouter.
Notre cœur est très fort. Il est fort parce qu'il attend toujours. On ne sait pas ce qu'il attend. Mais il est doté d'une patience infinie. Tout le reste est très fragile. Nous avons l'estomac délicat, la peau délicate, le palais sensible, les nerfs fragiles. Nous avons des insomnies, des tremblements, des cauchemars, des sueurs nocturnes. Mais le cœur n'a jamais rien. Il est très sain. Il avale tout. Il digère tout. Les éloignements, la solitude, les poisons, les pensées angoissantes, les années horribles. C'est le cœur qui est fort, c'est le cœur.
Là encore, Valéria Brunet-Téliski, moi qui ai la chance de vous voir, je vois de l'émotion dans vos yeux. Natalia Ginzburg, c'est toujours quelqu'un qui vous accompagne?
Oui. C'est sa façon de parler, là aussi, c'est ce qu'elle dit, mais c'est son rythme, le rythme avec lequel elle choisit les mots et la modestie de son écriture. Et son humilité dans essayer de chercher à dire une vérité, et sa profondeur, son humanité, c'est c'est quelqu'un qui me fait l'effet d'une mère dans la littérature. C'est comme si j'avais un... Elle me console. Et elle me fait un effet... c'est presque chimique, c'est pas très rationnel.
Parce qu'il est très... Voilà, ce qui est irrationnel complètement, c'est son...
Mais j'aimerais qu'elle soit plus connue en France.
C'est ça qu'on en parle aussi.
Ça, c'est très, très bien traduit, par exemple. C'est très... Donc, c'est pas, le problème n'est pas la traduction. Peut-être son livre principal, le plus, disons, mythique en Italie, qui est « L'essico familiare », qui est traduit par un titre qui est « Les mots de la tribu ». Peut-être ce livre-là, c'est pas qu'il est mal traduit, c'est qu'il est très difficile à traduire parce qu'il parle de mots de dialecte et tout ça. Donc peut-être c'est difficile pour les Français d'attraper son chef-d'œuvre, qui est ce chef-d'œuvre-là. Donc tout le reste autour, qui pour moi est merveilleux, je pense presque tout lu. Non, j'ai vu que Nanni Moretti avait fait une mise en scène au théâtre de pièces de théâtre d'elle que je ne connaissais pas. Alors j'étais extrêmement jalouse. Parce que si j'avais lu ces pièces, j'aurais essayé de les mettre en scène, moi.
Alors, ben justement,
théâtre. Mais j'irai les voir.
Théâtre, oui, c'est aussi de la littérature. Moi, j'ai eu la chance de vous voir quelques fois sur scène, mais vous y êtes quand même assez rare, Valéria Bruni Tedeschi. C'est par choix, par manque de temps, par manque de propositions intéressantes.
Non, c'est parce que c'est peut-être plus sacré que le cinéma, pour moi, le théâtre. Et plus douloureux, plus long. Et voilà, donc quand il y a une proposition vraiment irrésistible, mais vraiment irrésistible, je sais que je vais souffrir plus qu'au cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi simplement parce que c'est le soir et que moi, je préfère travailler le matin. C'est pas mes horaires. C'est pas tellement mes horaires, le théâtre. Mais, par exemple, la dernière expérience que j'ai eue, c'était avec Simon Stone.
C'était pas rien, oui.
C'était extrêmement, même si on a eu plein de problèmes, de choses, parce qu'il est parti avant, au bout de la deuxième représentation, il a disparu.
Extrêmement complexe, voilà, quand même, dans son architecture.
Mais c'était merveilleux. Et j'ai eu peut-être du plaisir comme je n'ai jamais eu avant. Et donc, du coup, j'aimerais comme ça tous les 5, 6, 7 ans dans ma vie. Donc, il ne m'en reste pas encore beaucoup de spectacles, hein, si je compte. Mais j'aimerais faire du théâtre.
Mais là, on y est, aux 5, 6, 7 ans.
On y arrive, là.
Depuis
les
spectacles avec Simon Stone.
J'aimerais bien retravailler avec lui.
Mais il est compliqué à attraper, ce garçon. Hein.
Ouais.
Il court d'un endroit à un autre, un opéra à un autre, d'un théâtre
à un autre. Vraiment, mais il a du génie. Je pense qu'il a vraiment du génie.
Je suis d'accord avec vous. Pour poursuivre ce voyage dans votre imaginaire, quand même, votre choix musical pour cette émission, alors qu'il s'est porté sur Let It Be des Beatles. Pourquoi ce choix?
Parce que moi, j'arrive pas. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à laisser aller. J'arrive pas à laisser être. J'arrive pas à ne pas essayer bêtement, parce qu'on n'arrive pas à contrôler, mais j'essaye bêtement de contrôler, et que c'est une chanson qui m'indique ce que je devrais faire.
Il faudrait que ce soit votre mantra.
Ouais.
Let it be, Valéria.
Ouais.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Let it be. Un bon conseil pour tout le monde, cela dit. Allez, un bon été de ski pack, pas seulement pour vous. Votre premier long métrage, en tant que réalisatrice, Il est plus facile pour un chameau, est sorti sur les écrans en 2002. Alors, vous tourniez à ce moment-là beaucoup, régulièrement, en tant qu'actrice. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de réaliser vous-même ? Alors, pas un devoir, mais un désir, une nécessité ?
Ouh là là ! Déjà, je tournais pas beaucoup. Oh. Déjà, c'était une période. Non. Parce que il faut dire les acteurs de cinéma, ils ont des périodes où ils sont, on leur propose pas. Et ça arrive à tout le monde.
Oui,
et là, c'était une période comme ça.
D'accord.
Et je remercie cette période-là parce qu'elle m'a donné envie d'écrire. J'avais un peu participé au scénario, à un scénario de Mimmo Caloperesti qui s'appelle Mots d'amour. Et ça m'avait donné envie d'écrire des dialogues, donc je m'étais mise à écrire des dialogues. Et j'avais montré comme ça des choses à Noémie Lvovsky, qui m'a encouragée, qui m'a proposé de travailler avec moi, qui m'a ensuite poussée à réaliser moi-même le film, qui a été vraiment au départ comme si elle m'avait donné une légitimité, en tout cas elle m'avait donné... voilà, une bonne injonction. Il y a les mauvaises injonctions, les gens qui disent « tu n'arriveras jamais à faire ça », et il y a les gens qui donnent des bonnes injonctions, plus son travail de scénariste sur tous mes films. Et du coup, cette porte s'est ouverte pour moi, qui est comme qui a été comme devenir adulte artistiquement. C'est-à-dire que mon travail d'actrice, c'est que malgré tout, reste un travail d'enfant qui... se fait regarder, se laisse regarder, même si je le fais de façon assez mûre, mais je reste dans une position enfantine, alors que en tant que réalisatrice, je suis plus maternelle, paternelle, géniteur, enfant, parent, quoi. Géniteur, non, pas géniteur, mais parent.
Ouais, mais vous avez dit que, à votre grande surprise, ce premier tournage, donc en tant que réalisatrice, il avait été joyeux, léger, du premier au dernier jour.
C'était comme si j'avais pris, je ne connais pas bien la cocaïne, mais comme si j'avais pris de la cocaïne le matin, je me levais, je me levais en sautant du lit, je courais, j'étais dans une joie perpétuelle. Je n'ai jamais connu ça dans ma vie.
Et ça ne s'est pas reproduit pour les autres tournages ? Pas de la même façon ?
Non, pas comme ça. Pas autant.
Mais est-ce qu'il y a un
état par... beaucoup de plaisir dans Les Amandiers à nouveau. Peut-être parce que je joue... Dans Les Trois Sœurs aussi, c'est une adaptation que j'ai faite...
Avec la Comédie Française, ouais.
De la Comédie Française. Pour Arte, ça aussi. Et dans Les Amandiers. Mais peut-être parce que je jouais pas. Alors du coup, ça m'a redonné une chose comme nouvelle. Les Amandiers, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais aussi extrêmement très, on est comme si on était plus vivant que dans la vie normale, vraiment beaucoup plus vivant et plus joyeux. Et aussi, on est plus généreux, on regarde mieux, on est comme dans un état de méditation. Parfois, il m'arrive de faire un peu de méditation, j'arrive pas. Mais je me dis, en fait, quand on travaille, quand on tourne, ou quand on est vraiment en plein dans le travail, c'est comme si on était dans un état de méditation.
Alors, il y a eu 5 fiction pour le cinéma, cette adaptation des Trois Sœurs, vous le disiez, avec les interprètes de la Comédie Française, c'était pour la télévision. Il y a un documentaire que vous avez signé aussi avec Yann Corridian, mais oui. Pour chacune de vos fictions, il y a donc cette amie de très longue date qui travaille toujours au scénario avec vous. Vous l'aviez rencontrée, ai-je lu, à la fin des années 80 dans un café pour tourner son court-métrage « Dis-moi oui, dis-moi non ». Donc
Oui.
Il s'agit de Noémie Lvovsky.
Les rues de Lille.
Ah, alors.
On avait, j'habitais rue de Verneuil. Et elle avait vu l'amoureuse de Doyon qu'on avait tourné à Nanterre, pendant l'école de Nanterre. Et elle avait voulu me voir pour son court-métrage de sortie de la Fémis. Et c'était étrange. C'était, il y avait une espèce de comme ça, de personnage qui doutait, qui était perpétuellement dans le doute et dans la contradiction intérieure et qui me semblait, j'avais l'impression que c'était ma voix qui parlait, ma voix intérieure. Et il y a eu une rencontre comme ça, au café, dont je me souviens, où je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête de fumer. Et enfin, elle a arrêté de fumer.
C'est vrai?
Et voilà, et on a commencé à... Et j'ai commencé à faire l'actrice pour elle. J'ai fait ensuite Oublie-moi. Et La vie ne me fait pas peur. Petite, La vie ne me fait pas peur. Et ensuite, il y a eu ce retournement de situation. Elle a commencé à écrire pour moi, enfin, avec moi. Et ensuite, à me pousser à... Voilà. Et ensuite, elle a joué... Je l'ai filmé, moi... elle. Et voilà. Et donc, les choses se sont... Et puis, on est amis.
Je vous propose d'écouter cet extrait de l'émission dans laquelle elle était, ici même, en mars dernier, Noémie Lvovsky.
Peut-être que je me mets toujours, en tout cas, dans les films que j'écris, que je réalise, peut-être que je me mets toujours à côté de la tragédie. J'ai comme une espèce d'incapacité à raconter une tragédie. Alors comme spectatrice ou comme lectrice, je peux adorer certaines tragédies. Et puis je les vois aussi dans la vie réelle.
Oui.
Et je les vois ou je peux même les vivre parfois. Mais je me mets à côté de ça quand je raconte une histoire. Alors peut-être que cette apparente légèreté ou ce goût pour la comédie que je peux avoir, mais une comédie qui est toujours sous-tendue par des choses terribles.
Alors, évidemment, en écoutant ces propos de Noémie Lvovsky, Valéria Brunet-Tedeschi, j'imagine qu'ils pourraient être les vôtres,
oui,
pour beaucoup.
On a vraiment ça en commun, et le goût de la tragicomédie, disons, de la,
oui.
Voilà, en tout cas de ce mélange qu'on voit dans la vie, et qu'en tout cas on a envie de voir dans la vie, on a envie, non seulement on le voit pas toujours malheureusement, mais en tout cas... Quand on travaille, on a envie de le voir et c'est comme aussi bien pour elle que pour moi, que aussi, parce qu'il y a aussi Agnès de Sacy qui travaille. On a cette envie de ne pas, ce que dit Noémie, elle est vraiment le notre diable, c'est l'esprit de sérieux. et on a besoin de l'humour comme d'oxygène. Et on a vraiment, on est d'accord sur ça, mais moi, même en tant qu'actrice, même dans des personnages comme elle dit tragiques où il y a pas avec des metteurs en scène qui sont pas spécialement des metteurs en scène de comédie, mais j'ai besoin d'amener j'ai besoin de trouver l'humour de la vie quand je raconte la vie.
Et comment ça se passe l'écriture avec entre vous? Est-ce que vous avez une méthode au fil des années?
Non, ça dépend, mais disons qu'en général, quand même, il y a des scènes cruciales, des scènes, comment dire, d'où le film naît. Il y a une ou deux ou trois scènes qui parfois, d'ailleurs, vont une contre l'autre, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est ça qui est beau, qui font comme ça, ça fait un choc et de l'électricité. Et on se dit, il y a un film. Et là, après... Il y a de la réflexion, il y a, par exemple, pour Les Amandiers, j'ai commencé à écrire, mais après, Noémie a eu cette idée de... Voilà, elle m'a dit, va faire des entretiens avec tous tes anciens compagnons et amis, collègues, et de l'école, camarades. Mmh. Et ça m'a permis de les revoir, ceux qui étaient encore vivants. Et tous, pratiquement, à part une, tout le monde a accepté avec, de façon très généreuse. Et donc, ça, c'était la méthode pour ce film-là. C'est-à-dire que grâce... On avait déjà écrit avant, mais grâce à leurs témoignages, le film a pris comme une... comme la mayonnaise a pris. Mmh. La mayonnaise a pris avec des détails, avec... voilà. Et après, on est très libre d'aller dans la fiction, d'inventer, d'avoir des scènes qui sont arrivées, qui sont, disons, inspirées de la vie de Noémie ou inspirées de la vie d'Agnès ou inspirées de la vie de Tartempion. Mmh. C'est pas, on n'est pas du tout... il n'y a pas de règles de biographie. On est... dans la liberté, dans la planète de la liberté.
Alors, toutes deux actrices, toutes deux cinéastes, quand il s'agit, une fois écrit, de choisir les interprètes, qu'est-ce qui est déterminant dans le choix d'une actrice, d'un acteur pour vous ?
L'envie de le filmer ou de la filmer. La vibration de son regard, ce que son regard me provoque comme vibration à moi, ce que sa voix me provoque comme vibration, comment tout ça vibre quand quelqu'un rentre dans une salle, que j'ai vu tellement de jeunes gens pour Les Amandiers, et c'était tellement merveilleux, mais vraiment, il y a une vibration tout de suite, et c'est ça qui me guidait.
Après, il faut encore les diriger, ces interprètes. Mais sur cette question-là, je vous avais reçu sur cette antenne, alors heureusement que mes archives sont à jour, en décembre 2007, c'était le jour de la sortie de votre deuxième long-métrage, actrice. Et vous étiez venue avec une de vos actrices, donc votre mère, Marisa Borini. On va écouter cet extrait de notre entretien.
J'étais pianiste toute ma vie, depuis l'âge de 6 ans. Puis j'ai arrêté le piano pour beaucoup de motifs de famille. Et quand Valère m'a proposé de jouer dans Le Chameau, bon, je l'ai fait, puis j'ai fait encore deux autres films. Et
La Boîte Noire avec Richard Berry.
La Boîte Noire et La Petite Chartreuse.
La Petite Chartreuse.
Bon, c'est évident que je n'ai aucune ambition et que je l'ai fait uniquement comme ça, pour me distraire, pour m'amuser. Ça m'a amusé. Et puis, bon, spécialement avec Valéria, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup comme elle travaille.
Hein. Alors justement, vous pouvez comparer puisque vous avez vu d'autres metteurs en scène au travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la particularité de Valéria Brunetelski comme metteur en scène, comme directrice d'actrice, en l'occurrence ?
Je pense que, bon, j'ai travaillé très bien avec elle parce qu'elle réussit à vous dire la chose essentielle quand il y a une scène. Elle me dit, voilà, toi, tu dois être comme ça, là. Elle dit pas grand-chose, elle laisse assez libre. Elle avait très peur de la scène dans la chambre du lit. Elle m'a dit, tu vas avoir une scène terrifiante. En effet, mon rôle est horrible dans cette scène. Mais non, ça m'a amusé beaucoup de le faire aussi.
Alors, est-ce que cette façon de diriger votre mère, Valéria Brunetelski, ne disant pas grand-chose, mais des choses essentielles, est-ce que c'est ce que vous faites avec tous vos interprètes ou est-ce qu'elle avait un traitement particulier ?
Non, chacun a un traitement particulier. Il y a des acteurs ou des actrices auxquels il ne faut pas parler trop, qu'il faut laisser libre, qu'il faut accueillir, il faut un tout petit peu guider. Voilà. Ça veut dire on les dirige, mais de façon presque discrète, presque secrète, sans qu'ils le sachent. Mmh. Au lieu, il y a des actrices ou des acteurs à qui il faut parler plus, ou qu'il faut... Certains, il faut carrément leur montrer pour qu'ils ne fassent pas une imitation, mais du mimétisme. C'est autre chose. Mmh. C'est-à-dire faire ressentir la respiration. C'est surtout la respiration des personnages qui est importante quand on joue. Comment un personnage respire ? Est-ce qu'il respire vite ? Est-ce qu'il respire calmement ? Est-ce que l'oxygène est haut ? Ou est-ce qu'il part du ventre ? Ça, c'est très important. Et selon les périodes de la vie, on respire pas de la même façon. Et alors, parfois, une personne a exactement la respiration du personnage, parfois non. Parfois, il faut lui montrer, lui faire ressentir un autre rythme intérieur. Ça dépend des acteurs et des personnages et des films.
Mais pour vous, en tant que comédienne, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'art ou du cinéaste qui vous dirige?
Ça a été tellement... que j'avais dit, c'est dans un documentaire, il y a, quand j'avais 20 ans, j'attends qu'il m'aime et qu'il me casse.
Oula.
Ça a été repris comme si j'avais dit un crime, j'avais dit une chose terrible. Non, j'attends que la personne, il ou elle, m'accueille. Et là aussi, j'attends un tout petit peu que la personne me guide. Tout petit peu. C'est vrai que c'est agréable quand on dit pas grand chose, qu'on sent qu'on est un tout petit peu guidé. On se sent libre, mais un peu tenu. Et quand c'est tenu de loin et discrètement, c'est très agréable pour un acteur parce que on le sent presque pas. Mais en fait, en vrai, on est très tenu.
Alors, concernant Il n'y a pas d'ombre dans le désert qui sort demain, c'est un cas un peu particulier puisque vous avez coécrit le scénario avec le réalisateur Yossi Aviram.
Ça m'est jamais arrivé.
Ben voilà, donc ça c'est vraiment un cas d'école. Alors, bon, celui-ci raconte qu'il a vécu un grand choc en voyant il y a 20 ans votre premier film. Il n'est pas facile pour un chameau. Alors, il rêvait lui-même de devenir cinéaste à ce moment-là. Il avait écrit 10 ans avant de vous découvrir à l'écran un très long scénario dans lequel une comédienne française venait au Festival de cinéma de Jérusalem et se faisait enlever par un homme qui l'emmenait dans le désert. Alors, à partir de ce point de départ, vous avez, Valeria Brunet-Tedeschi, avec Yossi Aviram, imaginez un autre récit, d'autres personnages, mais il y aura en effet toute une partie dans le désert que je ne divulgacherai pas. Est-ce que vous aviez jamais eu donc cette expérience de coécrire un scénario d'un film que vous interprétez, mais que vous ne réalisez pas? Qu'est-ce que ça a changé?
Non, mais moi, c'est déjà, comme je disais au départ, c'est avant tout la rencontre avec Yossi qui est importante pour moi. Et le fait qu'on ait passé du temps ensemble à réfléchir à ce scénario, à ce film, et que le film ensuite se soit fait, tout ça, c'est un grand, beaucoup d'années de ma vie où on s'est vu comme ça. Parfois, c'était une semaine par an, 2 semaines par an. Ça a duré longtemps, l'écriture. Puis à un moment, il a continué à écrire sans moi. Mais disons qu'on a quand même fait naître ce film ensemble. Et que c'était une expérience. Je me sens pas moi co-scénariste. Je me sens pas. Je pense pas que je sois très forte pour ça. Mais quand même avec Yossi, on a eu des idées. On a eu Après, je lui ai laissé faire son film. J'ai aimé le laisser faire son film. Mais on avait cette envie d'une histoire d'amour entre deux personnes qui se retrouvaient. Et qui s'étaient vus et qui s'étaient aimés dans la jeunesse, dans leur jeunesse. Ça, c'est quelque chose qui est romanesque, qui me vient peut-être de la connaissance profonde de Platonov, de Tchekhov, où il y a vraiment cette rencontre. Et l'un des deux ne reconnaît pas l'autre, ne se souvient pas ou fait semblant de ne pas se souvenir. Ça nous intéressait. Et puis, ça nous intéressait aussi de parler du dernier. Du dernier SS, c'est-à-dire le dernier encore vivant qui pourrait encore auquel on pourrait encore faire un procès. Qu'est-ce que ça serait ce dernier procès? Et donc ces deux, comme je disais tout à l'heure, deux scènes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui se cognent l'une avec l'autre, ils font comme une étincelle. Voilà, c'est ces deux arguments-là qui ont donné naissance au film.
Oui, parce que dans ce film, le point de départ, c'est Anna que vous incarnez, écrivaine française, qui se rend donc à Tel Aviv pour assister à un procès d'un nazi, procès au cours duquel son père doit témoigner, et puis à Ori, dont la mère elle-même est un des témoins du procès. Il y a un autre élément qui vient peut-être quand même de vous, j'imagine, c'est Turin, la ville où vous êtes né, ville où est né aussi Primo Levi.
C'est pas tellement venu de moi, c'est vraiment venu de Primo Levi, et c'est vraiment une idée de Yossi. C'est vraiment, il a pensé fortement à Primo Levi, au fait que c'était à Turin qu'on s'était rencontrés, peut-être quand on était jeunes, Et il se trouve que c'est ma ville, mais c'était Primo Levi qui a surgi dans le film.
Primo Levi, rescapé d'Auschwitz, qui a écrit ce livre, aussi, c'est un homme, et qui s'est suicidé des années plus tard, 40 ans plus tard, dans sa cage d'escalier.
Dans l'immeuble de Turin.
Et moi, j'ai lu quand même que cette idée du procès de ce naziste, une idée qui venait de vous.
C'était plus une idée qui venait de moi. Oui, c'était une chose qui m'obsédait, de me dire...
Mais est-ce que c'est pas... Pardon, mais parce que la question, en fait, c'est est-ce que cette idée-là, cette question du nazi, de la Shoah, elle est dans ce scénario parce que c'est aussi pas un film que vous réalisez? Est-ce que
Oui, complètement. Oui, j'aurais jamais pu réaliser ce film, moi. Oui. Et puis, oui, c'est parce que c'était Yossi, c'est parce que moi, je me serais pas senti légitime du tout dans la réalisation de ce film. Mais même dans l'écriture toute seule. Non. C'était quelque chose où juste je donnais mon apport, mon amitié, disons, scénaristique. Et ensuite, ma présence en tant qu'actrice. Mais je pouvais pas. D'ailleurs, j'aime parler de ce film avec Yossi parce que je me sens protégée et légitimée par lui.
Alors, il y a toujours, pour moi en tout cas, comme spectateur, une jubilation vous voir sur l'écran, Valérie Brunité-Deschi, parce que vous provoquez des choses quand même que je ne vois pas d'autres interprètes proposer. On a souvent l'impression, alors là c'est encore l'idée des deux scènes choc qui n'ont rien à voir, que cohabitent en vous, dans vos personnages, des sentiments parfois, apparemment, ou des émotions contradictoires.
Oui.
Ça rit et ça pleure en même temps. Mais comment est-ce qu'on atteint cet état-là quand il y a le clap et que c'est le moment de tourner?
Mais parce que je pense profondément, enfin, pour moi, la bataille intérieure est l'une des choses sur laquelle je travaille le plus. La solitude et la bataille intérieure d'un personnage, d'une personne ou de moi-même. Bataille intérieure, c'est deux forces contraires. Et les personnages qui ont des batailles intérieures sont des personnages très puissants et très intéressants, même s'ils sont discrets. Hein. Même une bataille intérieure silencieuse peut être très belle. La bataille intérieure.
Alors, il y a cela, mais ça pose quand même aussi la question du don. Le don n'empêche pas le travail, mais je voudrais, Valéria Brunité-Deschi, avant que notre entretien ne s'achève, vous proposer d'écouter une dernière archive dans cette émission. C'était le 29 avril 2009. Patrice Chéreau disait, seul sur la scène de l'Odéon, le texte de Pierre Guyotat, Coma. C'est une soirée qui était diffusée en direct sur France Culture. Et à l'issue de la représentation, Patrice Chéreau m'avait rejoint dans un des salons du théâtre. On était, on l'attendait avec Pierre Guyotat, avec Thierry Tionnian, que vous connaissez bien aussi. Et j'avais demandé à Patrice Chéreau s'il pensait, c'était en écho au texte de Guyotat, avoir un talent, avoir un don. Écoutez sa réponse.
Les années passent et on sait qu'on a quelque chose en soi, on a une façon de faire, qu'on peut faire fleurir ou qu'on peut faire se faner aussi. Et je sais, quand je mets en scène ou quand, et là, maintenant, quelquefois, il m'arrive de faire des lectures ou de jouer, que je sais le faire, alors que par exemple, il y a quelques années, je pense que je ne savais pas le faire. C'est venu de Coltès, c'est venu de beaucoup de choses. C'est venu du travail aussi que je fais toujours, que ce soit même au cinéma ou au théâtre ou à l'opéra même, sur le texte et sur les mots, sur comment faire parvenir le sens. En fait, ce qui m'intéresse quand je fais une lecture, c'est ça aussi, comme un exercice pratique pour me ressouvenir des difficultés qu'il y a à faire parvenir le sens, à faire parvenir la pensée, d'avoir une pensée en action dans les mots. Et quelquefois, c'est très magnifique à faire travailler à des comédiens, à d'autres comédiens, et puis quelquefois, c'est très bien de le faire soi-même, tout seul. Voilà, mais... Donc je sais, je suis pas imbécile ni faussement naïf, je sais qu'il y a un outil de travail en moi qui s'est développé, qui s'est amélioré, qui s'est affiné. Je pense que je lis mieux. Quand je lis, je dis, moi, en tête à tête avec moi-même, je lis quelquefois mieux aussi les textes et j'avance dans le métier qui est le mien. Voilà. Non, c'est pas dur, c'est même très agréable de découvrir qu'on sait faire des choses que 20 ans avant on ne savait pas faire.
Et vous, Valéria Brunité-Deschi, est-ce que vous avez le sentiment que cet outil qui est en vous s'améliore aussi au fil des années?
Je pense déjà que que la vie fait que on est peut-être plus profond, ou peut-être qu'on est plus... On connaît quand même des choses de la vie qu'on ne connaissait pas avant. On connaît des douleurs, on connaît des joies, on connaît des sensations. Par exemple, la sensation de la vie qui passe, c'est une sensation qu'on peut avoir à 20 ans, mais qu'on a de façon quand même plus profonde à 60 ans. La mort, les ratages, tout ça, on connaît à 20 ans, mais on connaît quand même peut-être mieux après. Alors déjà, la vie, on la connaît peut-être un tout petit peu mieux. C'est pas qu'on sait, mais on a dans notre corps beaucoup d'expériences, beaucoup d'émotions. Et si on est un peu gentil avec soi-même, c'est du trésor, toutes ces expériences. Alors après, on les utilise quand on écrit ou quand on joue. Et c'est pas qu'on est mieux, qu'on sait mieux, mais je pense qu'on est quand même un instrument un peu plus large et un peu plus profond et un peu plus précis, peut-être.
Bah, ce trésor, il est à retrouver notamment à l'affiche du film de Yossi Aviram, Il n'y a pas d'ombre dans le désert, qui sort demain dans les salles. Je précise d'ailleurs que Yossi Aviram sera invité d'Antoine Guillot samedi sur France Culture dans Plan Large. Alors allez-y.
Après, je voudrais dire un petit truc, juste que, par contre, il y a quelque chose où on peut être pire. Parce qu'on peut aussi avoir des tics. Et c'est l'humilité qui fait qu'on va contre les tics.
Les tics, non pas contre eux.
Bon, non, les tics, c'est bien.
Merci beaucoup, Valéria Brunet-Tedeschi.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Le violoniste Théotime Langlois de Zwart s'offre un plaisir d'enfant en enregistrant plusieurs œuvres pour concerto de Vivaldi dans un double album consacré au compositeur vénitien Antonio Vivaldi, Concerti per una vita, publié par Harmonia Mundi. L'auteur des Quatre Saisons a en effet joué un rôle prépondérant dans la passion du jeune violoniste français pour le violon. Élu diapason d'or de l'année 2022, Théotime Langlois de Zwart a enregistré cet album avec l'aide du Consort, un ensemble qu'il a fondé en 2015 avec Justin Taylor, et qui a pour ambition d'interpréter de la musique baroque de chambre des 17e et 18e siècles sur instruments d'époque. C'est d'ailleurs sur un violon Jacob Steiner qui est de 1665 qu'il joue, construisant par là un son coloré qui sied parfaitement à la musique de Vivaldi et que l'on peut apprécier dans ce concerto en ré mineur.
Thank you.
C'était l'Allegro du concerto pour violon en ré mineur de Vivaldi, interprété ici par Théotime Langlois de Zwart et le consort.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Menton, vous entendez peut-être derrière moi la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, je vous propose de vivre un des corsos, hein, ces fameux défilés de chars pour la 90e fête du citron ici à Menton. Alors, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui viennent assister à ces défilés. La fête du citron s'étend sur 15 jours avec des défilés le jeudi en nocturne et le dimanche en après-midi. Et la ville double, triple, quadruple son nombre d'habitants le temps de ces passages de chars. Les gens arrivent très 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 en amont pour avoir les meilleures places et puis suivre ces chars de citron de près. Je vous propose d'aller vivre ça nous aussi, juste derrière les chars et les confettis. Alors ces chars qui défilent là sous nos yeux, eh bien il faut chaque année les confectionner et ce sont les employés municipaux de Menton qui s'y attellent pendant des mois. Alors ils nous attendent justement dans les ateliers pour une visite des coulisses juste avant que ces fameux chars entrent en piste.
Vous en avez entendu parler de John Lennon ?
Non.
Non ?
C'est la mascotte de Menton.
C'est vraiment la mascotte de la fête du citron. Et John Lennon est toujours présent sur chaque fête. Et là, cette année, sur les corsos, sur les chars. Et cette année, notamment pour le thème des JO, des Jeux Olympiques.
Oui, c'est ça. Parce que les premiers chars qu'on voit, c'est quand même, il y a une thématique sport très nette. Hein. On a un tennisman là, un rugbyman derrière, une cavalière encore.
Tout à fait. Toutes les thématiques du sport.
C'est des chars très imposants. Ils sont très hauts.
Oui, certains peuvent atteindre même 20 mètres de haut, donc pour les plus hauts, donc c'est vraiment ça peut être très impressionnant. Avec une somme de citrons et d'oranges par char impressionnant.
Oui, c'est impressionnant.
Sylvie Dorival, je travaille au Centre technique municipal de la ville de Menton en tant que directrice des ateliers municipaux.
Là où nous nous trouvons actuellement, on entend derrière nous justement les gens qui sont en train de travailler. Vous nous faites visiter les lieux ?
Exactement, nous allons visiter donc les ateliers de la ville de Menton où nous construisons les 10 chars pour la fête des citrons. Et nous réalisons tous les éléments de décor pour les chars mais également pour les motifs du jardin Biovès. Nous avons 10 chars qui représentent chacun une scène. Donc, par exemple, vous avez sur le thème de l'équitation. L'autre thème, c'est sur le sport du rugby. Vous avez aussi le tennis. C'est assez sympathique parce que tous ces chars sont différents les uns des autres. Mais quand vous les voyez tous circuler en centre-ville avec les groupes folkloriques, les animations tout autour, que ce soit les corsos la nuit, les jeudis ou le dimanche après-midi, c'est très sympa, il y a un très beau visuel, c'est très flashing et les gens aiment, c'est très festif.
Peut-être que vous pourriez nous raconter depuis quand cette fête du citron existe à Menton, d'où ça vient cette tradition ?
Alors déjà, on en est à la 90e fête des citrons. Et à l'époque, les gens faisaient la fête des citrons avec les agrumes de la ville. Mais c'était avec des petits moyens, sur des charrettes tirées par des ânes, des mules. C'était assez rudimentaire, on va dire. Mais il y avait tellement aussi de cœur à faire cette fête. Les mentonais et mentonaises s'habillaient et prenaient soin de mettre aussi quelques fleurs avec les agrumes. C'était vraiment une fête qui était très attendue. Maintenant, c'est une grosse manifestation.
On a vu les tribunes installées déjà,
voilà. C'était impressionnant. Dimanche, on a eu 30 000 entrées. Jeudi soir, malgré le mauvais temps, on a eu 10 000 entrées. Je trouve que c'est vraiment sympa. Puis les gens aiment l'ambiance parce que c'est très festif. C'est un petit peu ambiance familiale aussi. On est proche des décors et puis les gens mangent des confettis toute la soirée. C'est
très plaisant.
Oui, ce qui transforme finalement le mois de février en un mois de fête un peu partout.
C'est un mois de couleurs, justement, les gens qui ont tout le temps de la pluie chez eux, je pense, un petit peu plus haut de Paris, voilà. Ils sont contents quand ils viennent chez nous. Voilà, il y a de la couleur, il y a surtout des senteurs, des parfums. On sent bien l'orange quand on est dans nos ateliers.
Exactement,
voilà.
Quand on s'approche des chars, on sent l'agrume très fort.
Tout à fait. Et l'orange et le citron se mélangent très, très bien. Et en général, par exemple, pour la fête des citrons, on va passer environ 140 tonnes d'agrumes. Ce sont des fruits qui viennent exprès de l'Espagne, forcément. Mais on garde nos fruits à nous de Menton pour la gastronomie, pour des expos. Et puis voilà, quand vous mangez une tarte au citron à Menton, c'est très plaisant. Hein.
Alors là, on vient d'entrer dans l'atelier. Enfin, on est à la porte de l'atelier.
Oui. Donc ici, on est en train de vérifier les fruits sur les chars. Chaque fruit est fixé avec un élastique sur la carcasse métallique qui représente bien évidemment un thème. Donc devant nous, on a le tennisman. Donc il est important de vérifier la propreté, la netteté de chaque fruit. Donc certains fruits pourrissent parce que c'est normal, on a eu de la chaleur, on a eu de la pluie hier. Donc la vérification des fruits est indispensable. C'est des heures passées entières à tout vérifier et on a toujours des chars impeccables. Il faut compter à peu près une vingtaine de personnes entre le montage des fruits sur chaque char et le démontage. Il y a 20 personnes en plus qui viennent rejoindre nos équipes.
Et combien de temps il faut pour monter un char ?
4 jours, en allant vite. Et surtout, c'est ce qui est le plus important, c'est l'alignement de fruits. Vous ne pouvez pas mettre les fruits dans n'importe quel sens. Il faut respecter une façon de faire, c'est, on va dire, la qualité du travail. Et quand on voit au loin les motifs, on ne doit pas voir de trous au niveau du grillage. On ne doit voir que des fruits.
Oui, on ne voit pas la structure métallique qui soutient les fruits.
Non. Si vous fruitez mal, on verra les défauts. Vous voyez, le corps du tennisman est super bien fruité.
Ouais.
Mais ce que les gens apprécient énormément, c'est les confettis. J'y reviens, mais c'est impressionnant. Des kilos et des kilos de confettis. D'ailleurs, les sacs de confettis sont vendus par 20 kilos.
Ah oui, on les voit juste derrière nous, et c'est des énormes sacs.
Voilà, et ça part à une vitesse. Et les canons, pour ça, les canons à confettis, c'est génial parce que ça inonde le public et les gens s'en prennent plein la figure et tout le monde est ravi.
Alors le cortège a enfin commencé, on a dû attendre que toutes les personnes qui voulaient assister à ce corso soient là. Alors il faut dire qu'il y a une foule extrêmement dense, extrêmement compacte. Les rues de Menton n'arrivent pas à accueillir tous les gens qui sont venus voir ce corso. Les gens n'arrivent pas à atteindre les tribunes, ceux qui ont des places assises, les autres se montent dessus ou montent sur tout ce qui leur passe sous les jambes. Donc c'est un petit peu la panique, il y a quelques petit mouvement de foule, les gens s'énervent parce que c'est difficile d'accéder à quelque chose, mais les chars, eux, sont assez imposants pour qu'on les voit d'un peu partout. Donc cette année, le thème, c'est le sport. Hein. Donc on a vu passer plusieurs chars avec des thèmes sportifs différents. Et entre les chars de citron, eh bien, il y a des danseurs. On a du mal à distinguer puisque ils sont à même la chaussée et la foule empêche d'avoir accès à tout le spectacle. Finalement, les mieux placés sont ceux qui ont des balcons sur les différents immeubles de Menton qui arrivent à voir de haut ce qui est en train de se passer. Bonjour, vous parlez français ?
Oui.
Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à la fête des citrons ?
C'est la première fois.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, c'est très original, c'est sympa comme tout. Non, franchement, c'est impressionnant.
Vous venez de loin ?
Des Vosges. Au départ, et ensuite on vient de Barcelonnette.
Et vous, donc vous venez exprès pour venir voir la fête des citrons à Menton ?
Que pour ça.
Et vous, madame, comment vous trouvez le spectacle ?
Il est très joli. Et les costumes sont très beaux aussi.
Vous arrivez à voir quand même s'il y a beaucoup de monde. Hein ?
On est là depuis 11h.
Ah oui, vous êtes arrivé à 11h du matin.
Avec le petit.
Avec votre bébé.
On a la bonne place.
Oui, j'ai l'impression.
Tout le monde est bien.
Bon, super. Je vais vous laisser profiter du spectacle.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous venez souvent à la fête des citrons ici à Menton ?
Non, c'est la première fois.
C'est la première fois et alors, comment est-ce que vous trouvez ?
Bien.
Vous arrivez à voir des choses là ?
Du coup, on se met debout pour mieux voir, mais ça va.
Vous êtes là parce que c'est les vacances, on vous a emmené là ? Qu'est-ce que vous faites à Menton ?
Ouais, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, du coup, c'est pour son anniversaire.
Vous êtes tous venus en famille voir les chars ici à Menton ?
Oui.
Merci beaucoup.
De rien.
Avec plus de 200 000 personnes en 15 jours, la fête du citron de Menton joue depuis 90 ans son rôle de carnaval populaire en rassemblant touristes et locaux autour d'un produit d'exception du territoire, le citron de Menton. Au-delà des défilés et des confettis, c'est une mise en valeur d'un savoir-faire qui vibre dans les rues de la ville et la fierté de tous les mentonnais de partager leurs agrumes que le monde entier leur envie avec tous.
Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai à Nice et je vous emmène au musée Masséna, plus exactement à l'exposition qui s'y trouve et qui est dédiée, eh bien, au Carnaval de Nice.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.